Europe 1. Europe 1. Christophe Ondelatte.
Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va bien nous décrasser la tête. Et par les temps qui courent, je pense que ça va nous faire un bien fou. Un grand bol d'air. Je vous emmène au Groenland, au moment où la glace fond, au mois d'août 2012. Dans le sillage de deux hommes en kayak qui ont décidé de faire un périple de 1000 km en se frayant un chemin entre les icebergs. Et de temps en temps, d'aller voir ce qui se passe sous les icebergs. Le premier s'appelle Vincent Berthet, c'est un navigateur. Et le second est une petite vedette de la plongée sous glace, Alban Michon. Je l'ai écrite avec Claude Mandibille. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Avant de vous amener au départ de cette folle aventure en kayak dans les glaces de la côte est du Groenland, laissez-moi d'abord vous présenter les deux fous qui se lancent. Et d'abord Alban Michon. Au moment de se jeter à l'eau, le 20 août 2012, il a 35 ans. Dans le monde de la plongée extrême, c'est déjà une petite vedette. Parlez de lui à n'importe quel vrai fan de plongée et vous verrez ses yeux s'allumer comme deux soucoupes. Son compère s'appelle Vincent Berthet. Lui n'est pas plongeur, c'est un marin qui a commencé sa carrière dans les eaux tièdes des Caraïbes, mais qui s'est fait happer, lui aussi, par la magie des pôles. Il est caméraman, c'est lui qui filmera. Alors voilà leur plan. Partir fin août d'Itokortormit, sur la côte est du Groenland, en kayak, et rallier Tasiilaq, 1000 km plus au sud. Ça devrait prendre 2 mois. Entre les deux, rien. De la glace et que de la glace. Pas un village. Et leur but, c'est de plonger. De plonger le plus souvent possible sous la glace, sous les icebergs. Filmer ce qui ne l'a jamais été. Montrer des animaux que l'on n'a jamais vus. Leur maxime à tous les deux. Ça pourrait être une phrase de l'écrivain Paolo Coelho. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, alors essayez la routine. C'est mortel. Et donc, fin août 2012, les voilà à Itokortormit, charmante bourgade de la côte est du Groenland. Pourquoi fin août? Eh bien parce que c'est le point culminant de la fonte des glaces. Mais attention, il faut absolument boucler l'aventure avant fin octobre. Après, c'est la nuit polaire. Après, le risque est d'être emprisonné par la banquise. Ils fourrent leur kayak de tout leur matériel, matériel de plongée d'abord. Et puis une tente, 2 duvets, 2 réchauds, 2 téléphones satellites, 2 GPS, des panneaux solaires, une balise de détresse, 120 kilos de nourriture, essentiellement lyophilisée. Sans oublier le fusil à pompe pour les ours. Ils poussent leur kayak à l'eau, sous le regard intrigué des gamins du village. Et c'est parti. Ce premier jour, c'est pour se mettre en jambes, ou plutôt en bras. La mer est calme, il fait beau. Ils en profitent pour réviser leurs signes de communication. Ok, ils se grattent la tête. Si ça va pas, ils croisent les bras en l'air. Ils pagayent un peu. Ils avisent une plage. Ça te va? On s'arrête là? Ok. Avec une première difficulté. C'est une plage de gros galets. Fourrés comme ils sont de matériel, chacun de leurs kayaks pèse plus de 300 kilos. S'ils accrochent un rocher... Il coule, mais ça passe. Et maintenant, il faut planter la tente sur les galets. Ah, ils vont bien dormir. Ils font chauffer de l'eau qu'ils versent dans leur sachet de nourriture lyophilisée et ils se couchent, le fusil entre les 2 sacs de couchage. Le lendemain, il fait beau. Ils se sont fixés comme objectif d'atteindre le cap Brewster, 30 km. Ils estiment qu'ils en ont pour 10 heures. Ils appellent leur routeuse météo en France. Géraldine.
A priori, c'est bon, les garçons. Vous avez une fenêtre météo d'une dizaine d'heures. Mais attention, hein. Après, ça va se gâter. On annonce du vent.
Ils se mettent à l'eau. Et assez vite, ils sortent les voiles pour profiter d'une petite brise. Et oui, ils mettent de petites voiles sur leur kayak pour avancer. Mais assez vite, le vent forcit. Alors ils affalent. Ça fait 8 heures qu'ils rament. Ils n'ont fait que la moitié du périple qu'ils s'étaient fixé. La moitié. Et le vent forcit encore. 30 nœuds. Et les vagues se forment, de la houle. À un moment donné, Alban dessale. Il chavire. Il remonte dans son kayak. Il écope. Oh putain, je me suis senti un peu seul. Pendant quelques secondes. Oh putain, j'ai eu chaud. D'après le GPS, il leur reste encore 8 heures à ramer pour atteindre la plage où ils ont prévu de passer la nuit. Ils avaient évalué qu'il fallait 9 heures pour atteindre le Cap Brewster. C'est déjà beaucoup. En vérité, ils vont mettre 16 heures. Et quand ils arrivent sur la rive sud de la baie de Scoresby, ils sont rincés, ils sont ratatinés, lessivés. Et mauvaise nouvelle, dans le chavirage d'Alban, le fusil à ours, ça housse étanche, n'est pas étanche. Le fusil est trempé et ça n'aime pas trop l'eau de mer, les fusils. Et la question c'est, si un ours vient cette nuit caresser la tente, parce qu'il ne pense qu'à ça, se coucher, dormir, 16 heures de pagaie, pensez-vous, si un ours vient, qu'est-ce qui se passe? Bon. Je vous rassure, l'ours ne vient pas. Et le lendemain matin, il décide de rester là pour faire sécher tout ce qui est mouillé. D'autant que il y a de gros icebergs là-bas. Est-ce que ça n'est pas l'occasion d'aller voir dessous? Alban enfile une combinaison, ils prennent leur kayak, ils vont droit vers l'iceberg avec la banane. Ils sont venus pour ça. Le ciel est bleu électrique, la mer bleu marine, les icebergs immaculés brillent au soleil. C'est magnifique. Ils en repèrent un qui doit faire dans les 400 mètres de long, massif, superbe, dont on ne voit que 10%, le reste est à découvrir. Ils installent leur système parce que plonger du kayak, c'est impossible. Alors avec leurs deux kayaks, ils fabriquent une sorte de catamaran avec une plateforme au milieu. Alban accroche une bouteille sur son dos. Et plouf! Il regarde son thermomètre à son poignet. 0 degré. L'eau est au bord de gelée. Et il s'enfonce le long de l'iceberg. Avec pas mal d'appréhension, en vérité. Et en même temps, c'est tellement beau. Il se laisse glisser le long de la paroi, c'est vertigineux. Vers 40 mètres, il croise des méduses, un petit amphipode bleu, et puis un sténophore, une grosse chenille blanche avec des cils, et un ange de mer, un papillon sous l'eau, typique de l'Arctique. Et puis soudain, un grondement, comme une explosion sourde. Alban se dit, l'iceberg bouge. Et en haut, en surface, Vincent voit très bien d'où ça vient. Un gros bout de l'iceberg s'est détaché. Et il se dit, pourvu qu'Alban ne soit pas en dessous. Et en dessous, Alban n'a pas été touché, mais il a vu les morceaux de l'iceberg tomber, des centaines de milliers de tonnes, en vérité. Il a eu chaud, Et il remonte, et il trouve Vincent soulagé. Mais Alban, lui, il est sur son petit nuage, ce qu'il a vu en dessous. Il n'a qu'une hâte, y retourner. Et le lendemain, ils reprennent leur route à travers les blocs de glace, avec pour décor au loin d'immenses volcans noirs. Ce matin, il a neigé sur les montagnes autour. L'hiver est en avance. Ils enfilent leurs combinaisons, leurs gants étanches et ils poussent leur kayak à l'eau. Ça fait 9 jours qu'ils sont partis. Ils ont parcouru 230 kilomètres. Parfois, ils se retrouvent au milieu du brash, des glaçons partout autour, obligés de les pousser avec les kayaks pour se faire un trou, pour avancer. Ce soir, ils accostent sur une plage, ils plantent leur tente, et soudain, près de la tente, ils voient des empreintes d'ours. Et là, ils se disent, à propos, le fusil, il marche ou il marche pas? Et donc, ils l'essayent.
Rien, il marche.
Ouf! Et avec le fusil en main, ils se mettent à suivre les traces. Il y en a partout! Ce soir, ils ne dormiront que d'un œil. Quand il plonge, Alban utilise ce qu'on appelle un recycleur. L'air qu'il expire est réinjecté avec de l'oxygène pur. Une erreur de dosage et il perd connaissance. Mais sous la glace, dans une eau à 0 degré, c'est le système le plus sûr. En dessous, parfois il n'y voit rien. L'eau pure des glaciers qui se mélange à l'eau de mer, tout ça agité par les courants, ça donne une eau trouble, un peu flippante. Mais rien n'empêche Alban de descendre. Aujourd'hui, il a décidé d'aller sous l'iceberg. L'iceberg qu'il entend craquer en permanence. Et en haut, Vincent qui attend, inquiet, mais qui ne veut pas le montrer. Vingt-troisième jour. 300 kilomètres de parcouru. Ce matin, Alban veut encore aller plonger sous un iceberg. Un mastodonte. Il se laisse glisser dans l'eau. Des lucioles viennent le saluer. Et soudain, l'eau bouge au-dessus de sa tête. Il lève la tête. Un ours! Un ours polaire en train de se baigner dans les 500 kilos, il le voit battre des pattes au-dessus de lui. Qui des deux a le plus peur? Mais Alban comprend vite que l'ours nage bien, mais plonge très mal. Et donc, il se met à le taquiner, il passe une tête en surface, il joue avec lui. Et il plonge quand l'ours approche trop près. C'est magique, d'autant que l'ours finit par grimper sur un iceberg. Et bye bye. Septembre. 3 semaines qu'ils sont partis. Ils sont presque à mi-parcours. Un matin, le GPS leur annonce une étape de 25 heures.
25 heures ? Je pense qu'il exagère.
Mais assez vite, Alban et Vincent se retrouvent au milieu du brash. Des glaçons partout, bien denses, avec de la houle en plus. Des vagues. Et là, Vincent s'aperçoit qu'il y a un petit trou dans son kayak. Il a accroché un rocher ce matin au départ. Il écope, il éponge, il repart. Mais comme Vincent baigne désormais dans l'eau, il a froid aux pieds. Il ne sent plus ses pieds. Et là, faut pas traîner. Il faut trouver un endroit pour accoster. Or, la terre est loin. Et le brash de plus en plus dense, la glace est en train d'emprisonner les deux kayaks. Et la nuit tombe, le piège s'est refermé. Il va falloir passer la nuit là, dans les kayaks, cernés par la glace. Quelle nuit ! Quelle nuit ! Ils collent leur kayak côte à côte, autour de la glace, rien que de la glace, qui craque. Ils sortent leur Gore-Tex, leur couverture de survie. Ils posent le réchaud au fond du kayak. Ils font chauffer de l'eau et ils se font à manger. Ils sont frigorifiés, le moral dans les chaussettes. Quelle nuit! Heureusement, à cette saison, les nuits sont courtes. Cette nuit d'enfer dure 4 heures. Et quand le jour se lève, timide, rien n'a bougé. Les deux kayaks sont toujours coincés par la glace. Il n'y a qu'une solution. Plonger dans l'eau glacée pour tenter de les dégager, de les pousser. Et bon an, mal an, sur son kayak, Alban enfile sa combinaison. Il se met à l'eau et à la nage. Vous entendez ? À la nage ! Il tire les kayaks au milieu des glaçons. Ça lui prend 2 heures jusqu'à atteindre l'eau libre, sans glace. Ça s'est joué à 3 fois rien. Ils ont bien failli y rester. Ils rament jusqu'à l'île la plus proche. Ça fait 36 heures qu'ils sont sur leur kayak. 36 heures. Ils accostent, ils montent la tente et ils s'effondrent. Quand ils se réveillent, il fait grand bleu. Ils en profitent pour se laver à l'eau glacée. Leur première douche depuis le départ. Mais dans leur tête, quelque chose a changé. Hier, ils ont failli mourir. Ils ont perdu leur insouciance. Le 25 septembre. Un peu plus d'un mois qu'ils sont partis. Ils ont parcouru 720 kilomètres. Et l'hiver est en train de s'installer. Ils le voient bien, à terre. Les rivières sont gelées. Et les nouvelles envoyées par Gégé, la routeuse météo, ne sont pas bonnes. Un gros coup de vent arrive, dans les 35 à 40 nœuds. Et avec ça, il fait de plus en plus froid. Moins 17 degrés, ce matin. Vous seriez resté au chaud. Mais pas eux. Alban se dit, la banquise est en train de geler, c'est ma dernière chance de plonger. Alors il donne un grand coup sur la glace qui se fissure. Et il se met à l'eau, sous la croûte de glace. Et il entend la glace qui se cristallise. Le froid est en train de tout pétrifier. Le lendemain, le fjord dans lequel ils se trouvent est complètement gelé. Ils tentent une sortie, ils font demi-tour. Il n'y a qu'une solution. Passer par la terre, à pied, 2 kilomètres, en portant les kayaks, un par un, et les 300 kilos de matériel et de nourriture. Ça leur prend 6 heures, 5 allers-retours. Et quand ils sont enfin au bord de l'eau libre, là, ils viennent de poser le premier kayak au bord de l'eau. Le kayak glisse sur un évé, il dégringole sur la plage et il part à l'eau. Le kayak dans lequel ils stockent leurs vêtements, leur nourriture, leur réchaud, leur combinaison étanche, tout est en train de partir devant eux. Ni une ni deux, Vincent se déshabille. Il enfile sa combinaison. Il n'a pas le temps de mettre ses gants. Il plonge les mains en l'air pour qu'elles ne gèlent pas. Et il nage comme il peut. Il va moins vite que le kayak qui s'enfuit. Qui vient d'ailleurs de se retourner. Un sac étanche flotte sur l'eau. Là-dessus, Alban met le deuxième kayak à l'eau. Il rame, il passe Vincent. Il récupère le sac qui flotte. Il récupère une pagaie. Il récupère sa combinaison étanche qui est aussi tombée à la baille. Ouf ! Mais Vincent est toujours dans l'eau. Les mains gelées. Si ça continue, il va les perdre. Alors il crawle, il pense fort aux gens qu'il aime et il finit par atteindre le kayak qu'Alban a récupéré. Il se hisse dessus, il rame comme un fou jusqu'à la côte. Son kayak est plein d'eau, il n'y arrive pas. Et le kayak coule à 2 mètres du rivage. Ils s'en sortent, mais ça s'est joué à 3 fois rien. Le vent se lève. Ils sont dans une tempête de force 6 à 7. Ils sont bloqués sous la tente pour plusieurs jours. Ce soir, Alban fête ses 35 ans. Il sort une petite bouteille de vin rouge. La tempête est passée. Ce matin, il fait grand beau. Et c'est reparti. Il reste 200 km à parcourir. Si tout va bien, dans 10 jours, ils sont arrivés. Si tout va bien, car la glace est en train de se refermer devant eux. Alban décide de faire une dernière plongée, de nuit. Il fait moins 20 degrés. Un thé bien chaud et il se met à l'eau, dans le noir. Sous l'eau, sa lumière attire des colonies de méduses, des morues arctiques, des calamars. Et soudain, un requin du Groenland, 4 mètres de long. La bête doit avoir dans les 300 ou 400 ans. L'hiver gagne chaque jour du terrain. Pour avancer, ils sont souvent contraints de marcher sur des plaques de glace. Mais régulièrement, ils tombent dans des trous d'eau. Et Vincent perd une botte. Il ne lui reste plus que sa combinaison étanche pour protéger son pied du froid. Fait chier. Merde. Alors il rampe sur la glace. 1 mètre, 2 mètres.
Putain, ça tient pas!
Et puis il tire les kayaks. 1 mètre, 2 mètres. Effroyable journée. Mais ils approchent du but. Il leur reste 30 km à parcourir. Et là, un vent terrible de nord-est se met à souffler. Au lever du jour, la tente et les kayaks sont recouverts de neige. Il faut les dégager. Et pourtant, ils se mettent à l'eau. Et ils pagaient sous ce vent glacial. Avec la force de ceux qui savent que l'arrivée est proche, que ça serait con de mourir ici. C'est la dernière bagarre. Le vent faiblit. Ça fait 51 jours qu'ils rament. Et ils entrent enfin dans le fjord au fond duquel se trouve Tasiilaq. Et soudain, sous un grand ciel bleu, ils voient le village au loin. Les petites maisons de couleur, l'église et son clocher, les petits bateaux du port.
On a réussi, mec!
Mais évidemment, personne ne les attend. Personne n'est là pour les applaudir. Ils accostent sur la plage dans l'indifférence générale. Mais peu importe, ils n'étaient pas là pour ça, ils n'étaient pas là pour l'exploit. Ils étaient là pour vivre une expérience à deux et pour la raconter et faire rêver les gens.